Kairoua Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 mai 2015. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Conseil de sécurité de l'ONU, une majorité serait en faveur d'un report des élections de la semaine prochaine au Burundi.
Au Rwanda, 2 millions de gens réclament dans une pétition la suppression de la limitation des mandats présidentiels.
Au Niger, remise en liberté provisoire de Moussa Tchangari et Nuhu Arzika.
Blanchiment d'argent, compte caché, millions de dollars de pots de vin. L'acte d'accusation accablant de la justice américaine contre la FIFA. 14 inculpations annoncées hier.
En Syrie, exécution de 20 hommes dans la cité antique de Palmyre par les djihadistes du groupe État islamique.
Et ne manquez pas notre rubrique La Minute Éco ainsi que les sports. Pour l'instant, le journal. Burundi, la présidente du Conseil de sécurité des Nations Unies, a indiqué hier qu'une majorité de ses 15 pays membres sont pour un report des élections prévues la semaine prochaine en raison des affrontements meurtriers qui secouent le pays. La Russie a cependant exprimé son désaccord, estimant que ces élections étaient une question intérieure au Burundi, ont rapporté des diplomates Henri Francisque.
Lors d'une réunion à huis clos, les membres du Conseil ont entendu l'émissaire de l'ONU au Burundi, Saïd Djinnit, au sujet des affrontements meurtriers qui secouent le pays depuis que l'actuel président Pierre Nkurunziza a annoncé qu'il briguerait un troisième mandat. Les élections législatives, initialement prévues en mai, avaient déjà été reportées au 5 juin. L'élection présidentielle est, elle, prévue le 26 juin. L'opinion qui prédomine, c'est que les élections ne peuvent pas être organisées dans les circonstances actuelles, a affirmé la présidente du Conseil, l'ambassadrice lituanienne Raimonda Mumokaitė. Celle-ci a cité les tensions dans le pays, le mécontentement grandissant et l'exode de réfugiés vers le pays voisin comme autant de signes que les élections ne seraient pas viables. Le Conseil de sécurité a condamné le week-end dernier l'assassinat du dirigeant d'un petit parti d'opposition, Zedi Feruzi, en se disant prêt à répondre aux actes violents menaçant la paix et la sécurité au Burundi. Mais le Conseil est divisé sur les solutions à apporter, la Russie plaidant pour que l'ONU aide le Burundi à résoudre la crise par lui-même.
Au Rwanda, environ 2 millions de personnes ont demandé par pétition une réforme constitutionnelle pour permettre au président Paul Kagame de se représenter en 2017, une requête qui sera examinée pendant l'été par le Parlement. Mais le Parti démocratique vert du Rwanda, qui avait déposé au Parlement sa propre pétition contre la suppression de la limitation des mandats, maintient son opposition. Joint à Kigali par Idriss Fall, le vert rwandais Jean-Claude Ntezimana.
Pour nous, nous avons dit non. Nous ne voulons pas que la constitution soit changée. Nous voulons continuer avec la constitution actuelle parce que une constitution doit être respectée pour donner la voie de la démocratie, donner donc une chance de la continuité. Si on change la constitution, ça veut dire qu'il n'y aura pas le changement. Donc il n'y aura pas une chance différente dans les années que nous avons passées. Dès 1959, nous n'avons pas eu cette chance de transfert du pouvoir. Nous avons l'espoir qu'il doit écouter aussi notre demande. S'il ne le font pas, il sera donc sur le côté de dictature. Parce que je pense qu'on ne peut pas changer la constitution comme on veut.
Pourquoi lancer une telle idée alors que le Burundi est en train de brûler à cause de cette histoire de troisième mandat?
Oui, c'est la même chose. Même au Burkina Faso, c'est une chose qui a causé ça. Quand on change la constitution pour le troisième mandat, nous n'avons pas donc l'espoir que le président aura le temps aussi de donner les autres pour participer dans les élections. Tu ne peux pas avoir une chance de vaincre celui qui est sur le pouvoir.
La Commission européenne a demandé hier aux États membres de l'Union européenne de prendre en charge 60 000 demandeurs d'asile originaires de Syrie et d'Érythrée. Il s'agit d'un geste de solidarité avec l'Italie et la Grèce, a affirmé la Commission européenne. Selon elle, les pays européens se doivent d'accueillir d'ici 2 ans 40 000 réfugiés syriens et érythréens qui sont actuellement sur les sols grecs et italiens, mais pas seulement. 20 000 réfugiés syriens Syriens venus de pays extérieurs à l'Union européenne doivent également être pris en charge.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Blanchiment d'argent, comptes cachés, millions de dollars de pots de vin. La justice américaine a dressé mercredi un état des lieux accablant d'une corruption, selon elle, endémique au sein de la FIFA, en annonçant à New York 14 inculpations. Jean-Roger Bion.
Les 47 chefs d'inculpation retenus contre 9 responsables de la FIFA, dont 2 vice-présidents et contre 5 partenaires, les accusent notamment de complots, de rackets, fraude et blanchiment sur une période de 25 ans durant lesquelles ces responsables du football mondial sont accusés d'avoir sollicité et reçu plus de 150 millions de dollars en pots de vin et rétro-commissions en échange des lucratifs droits médiatiques et marketing pour les tournois internationaux de football. C'est la Coupe du Monde de la fraude. Aujourd'hui, nous avons sorti le carton rouge, a déclaré Charles Weber, un responsable du fisc américain cité par l'AFP. La ministre de la Justice des États-Unis, Loretta Lynch, a accusé en conférence de presse les personnes poursuivies d'avoir corrompu les affaires du football mondial pour servir leurs intérêts et pour s'enrichir personnellement. Et elle a lâché une bombe concernant le Mondial 2010 en Afrique du Sud. Même pour cet événement historique, des dirigeants de la FIFA et d'autres ont corrompu le processus en utilisant des pots de vin pour influencer la décision d'attribution à un pays africain pour la première fois, a-t-elle dit.
En Syrie, des djihadistes du groupe État islamique ont exécuté 20 hommes dans la cité antique de Palmyre, tandis qu'en Irak, l'armée et des milices chiites tentent d'encercler la ville de Ramadi. Bagasikoura.
Selon l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'IA a tué par balle devant une foule rassemblée dans le théâtre romain de Palmyre 20 personnes. Et selon l'AFP, elles ont été accusées d'avoir combattu aux côtés du régime de Bachar al-Assad. L'IA s'est emparé de Palmyre le 21 mai après un assaut sanglant qui avait duré 9 jours. Selon l'OSDH, qui est basé à Londres, l'IA a depuis exécuté au moins 217 personnes, dont 67 civils dans la ville et ses alentours. De l'autre côté de la frontière, les forces irakiennes, soutenues par des milices chiites, tentaient hier mercredi d'encercler les djihadistes à Ramadi en vue d'une offensive pour les déloger de cette ville de la région d'Anbar à majorité sunnite.
Le Conseil de sécurité de l'ONU exige la fin de l'impunité pour les crimes contre les journalistes. Les détails avec Eddie Isango.
La résolution est passée mercredi à l'unanimité. Les conseils de sécurité enjoignent les États membres à s'assurer que les crimes contre les journalistes et professionnels des médias travaillant en zone de guerre ne restent pas impunis. Le Conseil fait part de sa profonde inquiétude devant les menaces qui pèsent sur la sécurité des journalistes de la part d'extrémistes comme les groupes État islamique. Pour Christophe Deloire, secrétaire général des Reporters sans frontières, s'adressant au Conseil, c'est une journée historique pour la protection des journalistes, mais au-delà, pour la liberté de l'information. Selon lui, au moins 700 journalistes ont été tués en 10 ans. Il réclame la nomination d'un envoyé spécial de l'ONU chargé spécifiquement de la protection des journalistes. Cet émissaire onusien aurait pour tâche de s'assurer que ceux qui se rendent coupables des crimes contre les journalistes soient poursuivis et punis.
Les États-Unis soulignent qu'on ne pense pas à une prolongation des pourparlers sur le nucléaire iranien qui doivent se conclure par un accord définitif à la date butoir du 30 juin. Le porte-parole du département d'État, Jeff Ratke, a déclaré que les États-Unis et ses 5 partenaires du P5+1, Grande-Bretagne, Chine, France, Allemagne et Russie, sont unis dans leurs efforts pour arriver à un tel accord d'ici à la fin du mois prochain. Le principal négociateur iranien, Abbas Araghchi, aurait dit hier, selon les médias d'État iraniens, que les négociations pourraient aller au-delà du 30 juin.
Le Nebraska est devenu mercredi le premier État conservateur à abolir la peine de mort aux États-Unis en plus de 40 ans et, défiant un veto du gouverneur républicain, le 19e État sur 50 a remplacé le châtiment suprême par la prison à vie. Sous les applaudissements et au-delà des clivages partisans, la Chambre unique du Nebraska a passé outre par 30 voix contre 19 au veto du gouverneur Peter Ricketts qui avait défendu bec et ongle le maintien de la peine capitale dans cet État du centre.
Les mots ne suffisent pas pour dire combien je suis atterré par la perte d'un outil crucial de protection de la loi et des familles du Nebraska, a réagi le gouverneur, estimant que les parlementaires avaient perdu de vue les citoyens par ce vote. Et puis, nous avons l'obligation de montrer le chemin, de montrer l'exemple à la société. Le meurtre par l'État ne peut pas être valorisé, ne doit pas être sanctifié, a plaidé le parrain de la loi, Ernie Chambers, appelant le Nebraska à entrer dans l'histoire du bon côté de l'histoire. Et maintenant, la Minute Éco avec Nicolas Pineau.
Donald Kaberuka sur le départ. La Banque africaine de développement élit ce jeudi son nouveau président. 8 candidats sont en piste. Comment ça marche? Chaque pays membre dispose d'un gouverneur. En tout, 80 gouverneurs voteront, 54 représentant les pays africains et 26 les pays dits non régionaux, de l'Argentine aux États-Unis, en passant par la Chine. Pour son 50e Labad et son président sortant aurait investi 14 000 milliards de francs CFA dans les infrastructures économiques en 8 ans. Et le Rwanda a réintégré la communauté économique des États de l'Afrique centrale. 8 ans après avoir suspendu sa participation à l'instance régionale, Kigali a officialisé son retour lors de la 16e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui s'est tenue le 25 mai à N'Djamena. Je vous rappelle que la CEAC a été créée en 1983. Elle réunit l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la Centrafrique, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la République démocratique du Congo, la Guinée équatoriale, Sao Tomé et Principe, le Tchad et donc le Rwanda. La Côte d'Ivoire a enregistré une production de coton record cette année, 450 000 tonnes au terme de la saison 2014-2015, soit une hausse de 11% par rapport à la saison précédente. La raison, des conditions météorologiques favorables et l'augmentation du nombre d'agriculteurs dans ce secteur. Enfin, la Banque mondiale mobilise 248 millions de dollars pour appuyer 2 millions de pasteurs dans le Sahel.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
Coup de filet à la FIFA, le mondial en Afrique du Sud a été corrompu.
Oui, le gouvernement sud-africain et le comité de candidature du mondial 2010 ont versé 10 millions de dollars au Trinidadien Jack Werner en échange de 3 voix en faveur de l'Afrique du Sud, selon l'acte d'accusation de la justice américaine publié mercredi. C'est ce qui a permis à l'Afrique du Sud de devenir le 15 mai 2004 avec 14 voix au détriment du Maroc, 10 voix et de l'Égypte, 0 voix, le pays hôte du mondial 2010. Le versement des fameux 10 millions, selon les autorités américaines, a pris plus de temps que prévu et a transité par des comptes de la FIFA. L'Afrique du Sud n'était pas la seule à avoir approché le sulfureux Werner. Selon la justice américaine, le Maroc lui avait proposé en 2004 $1 million pour voter en faveur du dossier marocain.
Parlons de certaines des réactions enregistrées après ces arrestations.
Oui, la Confédération brésilienne de football a apporté son soutien intégral à l'enquête sur la corruption au sein de la FIFA. Quant à la Russie, elle a dénoncé l'application illégale de la loi américaine après cette interpellation en Suisse de plusieurs personnalités liées à la FIFA. Et enfin, l'UEFA a demandé hier le report du congrès de la FIFA prévu aujourd'hui et de la présidentielle demain.
Football toujours, cette fois-ci sur le terrain, Séville remporte l'Europa League.
Tenant du titre, le club espagnol a remporté pour la 4e fois l'Europa League, un record en battant en finale Dinipro Tof 3-2 hier à Varsovie. Le club andalou s'adjuge ainsi son 2e doublé dans la compétition après ses sacres de 2006, 2007 et 2014.
On en parlait la semaine dernière, Rigo Gervais a atterri en Guinée.
L'Ivoirien Rigo Gervais a été nommé entraîneur de l'AS Kaloum en lieu et place de son compatriote François Zaoui. Limogé est devenu sélectionneur du MENA du Niger. Le nouveau coach arrive avec comme acquis son beau palmarès à la tête du CW Sport de San Pedro avec lequel il a remporté 3 années de suite le titre de champion de Côte d'Ivoire, une phase de poule de la Ligue des Champions et une finale de la Coupe de la Confédération en 2014. Et puis pour terminer, Idrissa, la NBA, les playoffs se poursuivent, notamment en Conférence Ouest.
Pas pour les Houston Rockets. Ils ont été éliminés 104-90 hier soir par les Golden State Warriors, nouveaux champions de la Conférence Ouest qui se sont qualifiés pour la finale NBA où ils affronteront LeBron James et les Cleveland Cavaliers à partir du 4 juin.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, le procureur de la République a remis hier en liberté provisoire Moussa Tiangari et Nuhu Arkiza, deux acteurs de la société civile qui étaient en garde à vue. Mais il a décidé de les poursuivre pour atteinte à la défense nationale. Pour rappel, Moussa Tiangari et Nuhu Arkiza s'étaient prononcés sur des médias sur la gestion de la guerre que mène le pays contre la secte nigériane Boko Haram depuis quelques semaines. Notre correspondant à Niamey, Abdourazak Idrissa, a recueilli la réaction de Moussa Tiangari à sa sortie du tribunal.
J'ai été accusé de collusion avec des terroristes. Finalement, les faits ont été réqualifiés. Et maintenant, je suis poursuivi encore pour atteinte à la défense nationale. On m'accuse de démoraliser les forces de défense et de sécurité. Je viens de bénéficier d'une liberté provisoire. Et je remercie mes avocats qui ont été à côté de moi, les camarades qui ont été largement mobilisés, mais aussi toute la communauté nationale et internationale soucieuse de la défense des droits humains. Tout le monde sait qu'Alternative Espace Citoyen n'a qu'une préoccupation, la défense des droits humains. Ce combat, nous l'avons commencé depuis la création de notre association. Et ce combat, on le faisait déjà dans ce pays, bien avant de créer Alternative. Ce combat va se poursuivre. Vous comprenez très bien que tout ce cirque qui est organisé, c'est pour nous décourager, c'est pour nous empêcher de faire notre travail, qui est un travail d'utilité publique. Inch'Allah, personne ne pourra nous empêcher de faire notre travail. Et moi, je sors de ces jours de détention encore ragardi, encore avec une conviction raffermie. Et notre combat va continuer. Et j'ai eu l'occasion de découvrir beaucoup de choses. Et de ce point de vue, je pourrais même remercier ceux qui ont organisé ce cirque pour me faire détenir pendant une dizaine de jours. Je peux le remercier, pourquoi ? Parce que ça m'a permis de voir des choses auxquelles je n'aurais peut-être pas eu accès si j'étais resté dehors. Je sais maintenant que la situation est même plus grave que ce que nous avons pu voir. Et Inch'Allah, vous vous en doutez, nous continuerons notre travail et nous informerons, conformément à notre mission, l'opinion de ce qui se passe. Je vous dis, c'est plus grave que ça. Et moi, donc, je suis content qu'on m'ait donné l'occasion de découvrir d'autres choses que j'ignorais. Donc, alhamdoulilah.
C'était Moussa Tiangari qui a été remis en liberté provisoire hier à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
En République démocratique du Congo, nous revenons avec notre correspondant à Lubumbashi sur l'opération de dépôt des candidatures pour les élections provinciales, opération qui a connu une prolongation faute d'engouement. Écoutons Narval Mabila.
C'est à un jour avant la prolongation de 5 jours qu'un engouement soudain avec tambour battant lors des dépôts des candidatures pour les élections à la députation provinciale a été constaté au bureau de la CENI Lubumbashi. Une prolongation appréciée par plus d'un candidat et membre de partis politiques qui, selon eux, ont commis plusieurs erreurs en remplissant les formulaires de la CENI. Papin Kyungu, membre du MSR.
Nous avons apprécié parce qu'ils nous accueillent bien, on nous donne des remarques, là nous n'avons pas bien fait, nous essayons de corriger. Mais néanmoins, nous avons été très contents encore ce matin quand nous avons appris qu'on ajouter encore 5 jours. Ça nous a permis vraiment d'arranger là où on avait des petits problèmes. On fait calmement au lieu de le faire en précipitation comme on l'a fait les 2 derniers jours.
Pour certaines personnes, ces élections auront une spécialité avec la candidature des sportifs, des comédiens et de l'ancien organisateur des élections de 2011, Cathy Lambeau, président de l'Union des jeunes Katangais et candidat à la députation provinciale. Comme sportif, il s'agit de l'entraîneur adjoint du tout-puissant Mazembe, Pamphile Miayo, et du goalkeeper de l'équipe stopper de faux pénalty dans l'énigme du 23 décembre du gouverneur Moïse Katumbi, jamais élucidé, Kidiaba Muteba. En outre, dans les 4 coins de la ville, le Louchois décrit les critères des dépôts de candidature qui n'est pas élitiste. Monsieur Jean-Pierre, que nous avons croisé sur l'avenue Mouepou en pleine discussion.
On ne peut pas prendre n'importe qui, n'importe quel lettré, on lui place où aller représenter les est fatigué, il a même le temps jeune aussi, de représenter quand même cette jeunesse. Ça m'écœure, moi personnellement.
À trois jours de la fin de la prolongation des dépôts des candidatures, un malaise lié au clivage tribal se vit au PPRD Fédération du Haut-Katanga sur la liste des candidats et suppléants. C'est dans ce cadre que les mandataires du parti venu de Kinshasa séjournent à Lubumbashi. Lubumbashi, Narval Mabila pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en RDC sur la radio communautaire du Katanga à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
Au Burkina Faso, le principal mouvement des droits de l'homme ne prendra pas part à la journée d'hommage aux 34 martyrs de l'insurrection d'octobre prévue le 30 mai prochain. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples entend ainsi protester contre le manque de volonté des autorités de la transition d'ouvrir des enquêtes sur ces assassinats. Ali Sanou est le secrétaire général du MBDHP.
Pour le moment, nous n'avons aucune information sur l'ouverture d'enquête. Et lors des investigations pour l'élaboration du rapport, nous nous sommes rendus compte que dans les localités que nous avons visitées, les familles que nous avons rencontrées, apparemment aucune procédure judiciaire n'a été ouverte.
Dans votre rapport, hein, vous mettez en cause le RSP, ce régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré.
Oui, évidemment, nous avons constaté pendant les journées insurrectionnelles que dans un premier temps, le 30 octobre, le RSP a ouvert le feu et a tué des personnes d'abord au domicile de François Compaoré, qui frère de Blaise Compaoré, dont ce domicile, il faut le relever, est gardé par les éléments du régiment de sécurité présidentielle.
Si ce dossier-là ne bouge pas, est-ce que ce n'est pas aussi parce que les principaux responsables de ce régiment-là, je veux dire le commandant Kéré, le général Gilbert Diendéré, et surtout le premier ministre Isaac Zida, qui était le numéro 2 de ce régiment-là, sont toujours en place?
Oui, je suis d'accord avec vous. Parce que lorsque nous suivons nos autorités, nous nous rendons compte que leur souci, c'est de dire rendre hommage aux victimes de l'insurrection populaire. Alors que le plus grand hommage qui puisse leur être rendu du point de vue de notre mouvement, c'est de travailler à ce que les personnes qui les ont tués et les personnes également qui ont ordonné qu'on tire dans les réels sur ces personnes soient arrêtées et jugées conformément aux lois en vigueur dans notre pays. Et la transition ne semble pas être un sujet de préoccupation, comme nous l'avons dit, parce que nous constatons que certains responsables de la transition ont été également, de par le passé, responsables du régiment de sécurité présidentielle, notamment le premier ministre de la transition, qui, il faut le rappeler, au moment des faits, était le numéro 2 du régiment de sécurité présidentielle.
Alors, même après le départ de Blaise Compaoré, il y a eu certaines personnes qui ont été tuées par balles, hein, notamment autour de la télévision nationale. Est-ce que vous attribuez cela aussi au RSP?
Oui, le corps qui est intervenu le 2 novembre à la télévision nationale, c'était des éléments du régiment de sécurité présidentielle qui ont ouvert le feu. Et sur place, il y a eu un mort et un blessé qui a été conduit à l'hôpital et qui a succombé des suites de cette blessure. Nous confirmons qu'il s'agissait bien du régiment de sécurité présidentielle.
C'était Ali Sanou de Ouagadougou. Il est secrétaire général du MBDHP.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, une série de reportages sur le drame de l'immigration en Méditerranée. Les naufrages ont déjà fait des milliers de morts. Comment l'Union européenne peut-elle régler le problème? Faut-il un plan robuste contre les trafiquants de migrants? Et l'Union africaine doit-elle agir également? Washington Forum, ce jeudi à 19h.
Au Mali, lancement de la campagne agricole 2015-2016. Deux activités à noter dans ce cadre, un conseil supérieur de l'agriculture et la journée paysanne. Selon notre correspondant Kassim Traoré, le président du Mali a décidé d'offrir aux paysans maliens 1000 tracteurs.
Avec la saison agricole qui commence, le coût de la subvention est arrêté cette année à 47 milliards de francs CFA. Le prix de l'engrais subventionné est maintenu à 11 000 francs CFA, le sac de 50 kg. Bakary Togola, président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali.
On souhaiterait que tous les engagements qu'on a pris devant le chef d'État aujourd'hui sera honoré, parce que lui-même il a subventionné l'engrais à 11 000 francs le sac. Il a honoré aujourd'hui 1000 tracteurs qui seraient subventionnés à 50%. Donc je pense que les 8 millions de tonnes et les 6 650 000 tonnes de coton grain, je peux dire que si la pluie nous accompagne, je m'engage au nom de tous les producteurs du Mali et les productrices qu'on va honorer cet engagement.
Le ministre du Développement Rural a fait la présentation des résultats de la campagne agricole 2014-2015 et du plan agricole 2015-2016. Il a rappelé que le Mali a récolté 6 980 733 tonnes de céréales, toutes spéculations confondues. Cette production représente 2% de hausse par rapport aux résultats de la campagne agricole précédente. Bokary Treta, ministre du Développement Rural du Mali.
Le plan de campagne 2015-2016, à la différence des précédents plans de campagne, est très ambitieux. Il couvre une trentaine de filières, donc de chaînes de valeur. Ça veut dire que nous allons travailler très sérieusement à la promotion d'une trentaine de filières, depuis les zones de production, identifier les contraintes, mettre en œuvre les potentialités, interroger les acteurs filières, comment les structurer, les organiser, puis travailler sur les différentes composantes pour assurer une meilleure promotion de la filière.
La campagne agricole coûtera au total 189 306 milliards de francs CFA, dont 47 milliards de subventions aux intrants, engrais et semences, et 10 milliards de francs CFA aux équipements. La campagne 2015-2016 verra le lancement du programme pilote d'équipement des paysans avec 1000 tracteurs et kits, au financement duquel le président de la République a donné son accord. Ibrahim Boubacar Keïta.
Si on ne se fixe pas des objectifs majeurs, on n'a aucune chance d'en atteindre aucun. On m'a dit cette année 14 et quelques. J'ai pas dit 14 et quelques, j'ai dit 15%. Un peuple qui n'a pas faim, qui sait se nourrir, qui sait produire pour sa dignité, ce peuple est un peuple libre.
Après le Conseil supérieur de l'agriculture qui s'est tenu à Koulouba, le président de la République s'est rendu à Samanko pour procéder au lancement de la campagne agricole de façon officielle. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons y continuer avec notre question de la semaine. Que pensez-vous du mariage précoce? Après le mariage forcé, nous enchaînons avec le mariage précoce. Aussi les amis, 28 ans après sa mort, on continue de parler de Thomas Sankara. Que retenez-vous de l'homme? Vos points de vue cette semaine dans RM Show. Envoyez-nous vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Make my head the bang. Caro, they make my head the
d'aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anna Watson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Edressa Sedudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.